Vous écoutez, on lit pour vous.
Le droit d'être élu. Un texte d'Émilie Rivard-Boudreau, paru le 26 février 2025 dans La Gazette des femmes. Derrière de grandes réformes, des femmes. Il y a 85 ans, le 18 avril 1940, après une longue bataille, les Québécoises obtenaient le droit de vote. On l'oublie souvent dans les commémorations, mais ce même jour, elles gagnaient aussi le droit d'éligibilité, soit la possibilité d'être elles-mêmes candidates. La première vice-première ministre de l'histoire du Québec, Lise Bacon, est âgée de 6 ans lorsque les femmes obtiennent le droit de vote et d'éligibilité. Elle est trop jeune pour comprendre l'ampleur de ce moment historique, mais dès l'adolescence, dans les années 50, elle saisit bien l'importance de s'impliquer en politique. J'avais 16 ans et je faisais des discours à Trois-Rivières. Je disais aux gens d'aller voter, et moi, je n'avais même pas le droit de vote, raconte la doyenne de 90 ans. Aux élections générales de 1952, Lise Bacon n'a que 13 ans et 3 femmes se prévalent de leur droit d'éligibilité. Thérèse Casgrain, Beulah Devlin Grace et Marie-Claire Kirkland Casgrain. Aucune d'elles n'est élue. Thérèse Casgrain et Beulah Devlin Grace en sont à leur 2e défaite électorale après une première tentative au fédéral. Marie-Claire Kirkland Casgrain, quant à elle, marquera l'histoire en devenant la première femme à faire son entrée à l'Assemblée nationale en 1961. Une élection partielle est déclenchée dans la circonscription de Jacques Cartier après le décès du député Charles-Aimé Kirkland. Lise Bacon est élue sous la bannière libérale 12 ans après l'entrée de la première députée à l'Assemblée nationale. Madame Casgrain suivait son père. Moi, il fallait que je me trouve une circonscription. Mon père n'était pas député. Tout était à faire. C'était moins facile, compare Lise Bacon. Si ce n'avait été que d'elle, c'est aux élections générales de 1970 que Lise Bacon aurait été candidate. Elle avait dans sa mire la circonscription de Trois-Rivières, mais le parti l'offre plutôt à son frère, Guy Bacon, qui sera par la suite élu député. On disait que Trois-Rivières ne voterait pas pour une femme. C'était assez frustrant, merci, se souvient-elle. La toute première. Le nom de Marie-Claire Kirkland Casgrain est assez connu au Québec. En revanche, peu connaissent celui de May O'Connor, née Mary Loretta Leahy, qui est pourtant la première femme de l'histoire du Québec à se porter candidate à une élection provinciale. Elle le fait en 1947, 7 ans après l'obtention du droit d'éligibilité. Le contexte dans lequel elle se présente est semblable à celui de Marie-Claire Kirkland Casgrain, soit lors d'une partielle pour succéder à son mari. May O'Connor était mariée à Dennis James O'Connor, élu avec le Parti libéral du Québec dans la circonscription de Huntingdon lors d'une partielle de 1941, puis réélu lors de l'élection générale de 1944. Le député meurt en fonction en novembre 1946 et le parti marque l'histoire en approchant sa femme pour lui succéder. Elle affronte John Gillis Rennie de l'Union nationale. May O'Connor mène une campagne personnelle, lit-on dans un article de The Gazette. elle fait appel au vote des femmes et laisse les sujets plus politiques aux dirigeants du parti, rapporte le journal. Elle met également de l'avant le fait qu'elle habite la circonscription, contrairement à son adversaire. Mais O'Connor mène une bataille honorable, mais ça ne sera pas suffisant. La veuve obtient 2675 votes, son adversaire 3402. D'éligible à élu. Devenir éligible est un premier pas. Être élu en est un autre. Dans son essai publié en 1982, « Le pouvoir? Connais pas! » Lise Payette décrit l'ampleur des défis qu'elle a dû surmonter. « Ma grand-mère a trouvé la politique extrêmement difficile », rapporte Flavie Payette-Renouf. En 1976, elle n'était que 5 élus, et pourtant, elle venait de battre un record historique de femmes à l'Assemblée nationale. Et avant de transformer le Québec, les premières députées devaient d'abord faire valoir leurs droits au sein même de l'arène parlementaire. Lise Payette s'est battue ardemment pour que ses collègues cessent de l'appeler « Madame le ministre ». Elle devait aussi porter la jupe et ne pouvait pas porter de pantalon à l'Assemblée nationale. Ça, ce sont des femmes comme Louise Harel et Louise Beaudoin qui ont brisé ce code-là, rappelle Flavie Payette-Renouf, qui vient de réaliser la série « Les lieux de pouvoir au Québec », diffusée sur Savoir Média. Pauline Marois est reconnaissante envers Lise Payette. Elle m'a invitée à rejoindre son cabinet et c'est là que j'ai commencé à réfléchir sur le fait qu'il fallait de plus en plus de femmes en politique. Avec elle, j'ai travaillé à ce qu'on ait plus de femmes candidates. Mais peu voulaient se présenter. C'était une bataille chaque fois, rapporte-t-elle. D'élue à influente. En plus d'avoir contribué à changer des règles à l'Assemblée nationale et d'avoir incité d'autres femmes à faire le saut en politique, Lise Payette est derrière de nombreux accomplissements pour le Québec, qui profitent à la fois aux femmes et aux hommes. On pense à la mise en place de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAC, à la loi sur la protection du consommateur, ou à la réforme du droit civil qui permet aux femmes de transmettre leur nom de famille à leurs enfants. Les enfants de Flavie Payette-Renouf portent d'ailleurs le nom de leur arrière-grand-mère. Pauline Marois a marqué l'histoire comme première ministre, mais selon elle, c'est sa fonction de ministre de l'Éducation et sa politique familiale de 1997 qui est son plus bel héritage. Je vais le répéter jusqu'à ce que je sois dans ma tombe. Les congés parentaux, les CPE, la maternelle à temps plein pour les enfants de 5 ans, ça a augmenté la richesse de notre société et fait reculer la pauvreté des familles, répond-elle avec conviction. Ce dont Lise Bacon est le plus fière, c'est d'avoir instauré la loi sur le statut professionnel des artistes et, par le plan Bacon, d'avoir allumé la flamme pour l'accès aux garderies. On lui doit aussi l'entente Valenti-Bacon qui exige une version française de chaque film américain distribué dans la province. Malgré l'âge qui laisse ses traces, Lise Bacon demeure une personne vers qui les militantes libérales et militants libéraux peuvent toujours se tourner aujourd'hui. Pourtant, dans les résumés historiques sur les femmes en politique, cette fidèle acolyte de Robert Bourassa se retrouve souvent dans l'ombre. mais la principale intéressée refuse de se dire éclipsée. Quand on fait de la politique, on ne fait pas ça pour soi. C'est pour changer les choses. C'était le droit d'être élu. Un texte d'Émilie Rivard-Boudreau, paru le 26 février 2025 dans La Gazette des femmes.
Soupir de soulagement pour des communautés inuites du pays. Un texte de Karine Lavoie, paru le 2 avril 2025 dans le Nunavoie. À 3 semaines de la fin annoncée de l'initiative « Les enfants inuits d'abord », ICFI, Ottawa a finalement confirmé que le programme serait reconduit pour la prochaine année. Bénéficiant à 13 000 enfants du Nunavut, nombreux s'inquiétaient de la cessation possible de ce financement. C'est entouré du premier ministre du Nunavut, P.J. Akiagok, et de Jérémy Tunraluk, président de la Nunavut Tungavik Inc., NTI, que l'ex-ministre des Relations couronne autochtone et des Affaires du Nord, désormais ministre de la Justice, Gary Anandasangari, a annoncé le renouvellement du financement de l'initiative. Le trio était réuni à l'occasion d'une cérémonie soulignant la signature d'un contrat de mise en œuvre de l'accord du Nunavut. L'ICFI représente l'équivalent inuit du principe de Jordan. Il a été créé dans le but d'assurer l'égalité pour les enfants inuits en veillant à ce qu'ils aient accès aux produits, aux services et aux soutiens essentiels en matière de santé, de services sociaux et d'éducation au moment où ils en ont besoin. Un programme nécessaire. Je tiens à remercier le premier ministre Justin Trudeau d'avoir prolongé cette initiative essentielle pour les enfants inuits. Au Nunavut, l'initiative pour les enfants inuits, d'abord, comble des lacunes critiques dans les systèmes d'éducation, de santé et sociaux. Il y a des répercussions importantes sur le bien-être des enfants et des familles inuites, a déclaré par voie de communiqué Jérémy Tunraluk. L'homme souhaite à présent que les Inuits soient invités à jouer un rôle dans la conception d'une version du programme à plus long terme. De son côté, le ministère des Services à la Famille du Nunavut se dit soulagé que l'initiative soit renouvelée vu l'importance du coût de la vie sur le territoire. Il espère néanmoins que des plans à long terme seront élaborés pour continuer à financer le programme au-delà d'un an. Taya Tuutu, directrice générale d'Arctic Children and Youth Foundation, abonde dans le même sens et confirme que cette annonce représente un réel soulagement pour les communautés. Je crois qu'un mandat d'un an nous permet d'élargir le modèle de responsabilité partagée sur lequel travaillent les organisations inuites. Les besoins fondamentaux de nos communautés doivent être satisfaits avant que nous puissions utiliser au maximum le financement de l'ICFI. Selon elle, ces fonds sont essentiels puisqu'ils permettent de répondre aux besoins fondamentaux des enfants et les aident à s'épanouir pour l'avenir. Les aides à la mobilité, le transport jusqu'au lieu d'un rendez-vous médical d'un enfant, les services d'orthophonie ainsi que les évaluations et les tests de dépistage relatifs à un besoin éducatif font partie des services admissibles au financement. Taya Tuutu estime que si le programme devait prendre fin brusquement, les niveaux de pauvreté infantile monteraient en flèche. C'est d'ailleurs ce qui a été constaté lors de la suppression de la prestation canadienne d'urgence, PCU, instaurée en 2020, alors que la pauvreté infantile a grimpé au-delà de son niveau le plus élevé de 2019. À cet égard, si l'ICFI devait s'arrêter brusquement comme la PCU, nous assisterions à un afflux et à une augmentation du nombre d'enfants qui luttent pour répondre à leurs besoins fondamentaux, dit-elle. La directrice rappelle qu'historiquement, il y a plus d'obstacles qui empêchent les enfants inuits de s'épanouir systématiquement qu'il n'y a de mesures de soutien pour les aider à le faire. L'ICFI a identifié l'étendue des besoins et, espérons-le, les gouvernements, les organisations inuites, etc., pourront tirer des leçons de ces données pour mieux façonner les politiques et les programmes dans le territoire afin de répondre aux besoins des enfants inuits. Davantage de restrictions. Bien que le programme soit renouvelé, des éléments qui étaient approuvés auparavant ne le sont plus. Ces modifications concernent, par exemple, l'achat, la construction ou la rénovation structurelle d'un domicile, ainsi que les demandes de soutien pour des événements sportifs ou pour l'entraînement dans un sport d'élite ou de compétition. D'autres demandes nécessitent maintenant une lettre d'appui d'un professionnel de la santé, telles que les mesures de soutien non médical, comme celles liées aux frais de déplacement, aux soins de répit non médicaux et à la garde d'enfants. Pour Taya Tutu, ces restrictions sont préoccupantes, puisqu'elles rendent plus difficile la création de programmes équitables et dépendent davantage des milieux de la santé, du social et des éducateurs du territoire. Dans le passé, les professionnels étaient déjà submergés par le niveau d'implication requis dans des choses telles que les lettres de soutien. Aujourd'hui, il y a encore plus d'exigences à inclure dans une lettre d'accompagnement, ce qui représente une charge mentale supplémentaire par cas pour chaque professionnel. Le ministère des Services à la Famille qualifie pour sa part de troublante la perspective de restriction à ce programme et poursuivra ses plaidoyers en faveur de l'initiative. C'était Soupir de soulagement pour des communautés inuites du pays, un texte de Karine Lavoie, paru le 2 avril 2025 dans le Nunavoie.
Manu se sentait partir. Un texte de Julien Gendron-Tardif, paru le 1er avril 2025 dans la presse. Emmanuel Gendron-Tardif sera reconnu non criminellement responsable du meurtre de sa mère, a annoncé une juge lundi. Le frère de l'accusé cherche à comprendre pourquoi les ressources en santé mentale ont été incapables de prévenir ce drame. Julien Gendron-Tardif est fils, frère, père, conjoint et avocat spécialisé en droit du travail. Le 25 janvier 2023, ma vie a basculé. Mon frère Emmanuel, plongé dans une crise psychotique, a assassiné ma mère, notre mère, dans la dure froideur de janvier. Je sens encore mes entrailles se déchirer. Une douleur qui fait désormais partie de moi et qui m'accompagnera à jamais. Je viens d'une famille pleine d'amour, de tendresse, de vie. Mon frère et moi avons grandi heureux, entourés, sans jamais manquer de rien. Épanoui professionnellement, mon frère n'a jamais eu de signe de trouble mental, aucune crise, aucun diagnostic, avant l'âge de 28 ans. Rien. Alors, pourquoi nous? Ce serait rassurant de pouvoir vous dire que Manu a toujours été troublé, qu'il était un grand consommateur de drogue dure ou encore qu'on provenait d'un milieu dysfonctionnel. Il n'y a pas plus grand gouffre que que celui qu'on ne peut pas expliquer, que celui qui apparaît sans raison. Pourquoi nous? Au mois d'août 2022, mon frère a demandé de l'aide. Manu se sentait partir, avait l'impression d'être le sujet d'un complot. Il a demandé de l'aide aux gens les plus proches de lui. Ma mère, moi, ses meilleurs amis. Il s'est rendu aux urgences et a accepté d'être interné une semaine à l'hôpital. Son état s'est rapidement amélioré, mais aucun réel diagnostic n'a été posé, outre de catégoriser l'épisode comme une psychose induite par le cannabis. Ma mère et moi avons été invités à rencontrer le psychiatre traitant de Manu, qui n'avait pas tellement d'informations à nous dire, outre de s'assurer qu'il ne consomme plus. Un antipsychotique à faible dosage lui a été prescrit. Mais le psychiatre a clairement mentionné qu'il n'aurait pas toujours à le prendre. On nous a promis un suivi serré, avec une équipe multidisciplinaire. Manu a quitté son appartement et retourné vivre chez notre mère, et les choses se sont replacées. Tellement qu'on a presque oublié cet épisode. Initialement, Manu nous confiait être optimiste envers le suivi qu'il recevait. Il a eu une première rencontre de suivi à l'hôpital avec un autre psychiatre, puis il a attendu une journée complète pour un rendez-vous avec une travailleuse sociale qui n'a finalement pas eu lieu à cause de surcharge ou de problèmes d'horaire à l'hôpital. Ensuite, plus rien. Aucun suivi avec lui ou avec nous. Aucun diagnostic officiel. Aucune supervision de la médication. Rien. Mon frère est intelligent, charismatique, érudit. Il est loin du profil type des patients en santé mentale où la maladie saute aux yeux. Est-ce que ça peut expliquer le laxisme avec lequel son cas a été traité? Peut-être. Ce que je sais, c'est que Manu est retourné en appartement en novembre 2022 et il a cessé de prendre les antipsychotiques, sans nous en parler, sans en parler à un psychiatre ou à un médecin, parce qu'il le pouvait et qu'il ne consommait pas de cannabis. Il faut attendre, c'est la loi. Ce que je sais, c'est que vers le 15 janvier 2023, ses symptômes psychotiques sont revenus, avec plus d'intensité et surtout avec une négation de sa condition. Ce que je sais, c'est que nous avons tout essayé pour obtenir de l'aide durant cette semaine fatidique. Les centres de crise, le 811, l'hôpital, les spécialistes, avec chaque fois la même réponse. Tant qu'il n'est pas une menace imminente pour lui-même ou pour autrui, rien ne peut être fait contre son gré. Il faut attendre, c'est la loi. J'entends encore ma mère en larmes me dire qu'il va falloir attendre qu'il fasse quelque chose de grave pour finalement obtenir de l'aide. On s'est rendu chez lui chaque jour, tentant de le convaincre de voir un médecin, de prendre soin de lui, de reconnaître son état. Rien n'y a fait. Ce que je sais, c'est que mon frère n'a jamais été violent, jamais. Notre mère était la personne qu'il aimait le plus au monde. Dans les derniers moments, j'ai craint qu'il porte atteinte à sa propre vie, mais jamais l'idée ne m'a traversé l'esprit qu'il nous fasse du mal. Ce n'était même pas imaginable. Ce que je sais aussi, c'est que ce matin glacial du 25 janvier 2023, ma mère s'est rendue chez mon frère pour tenter de l'aider et elle a refusé que je l'accompagne. La suite, vous l'avez lu dans les journaux, parfois sous de gros titres incitant à cliquer et cherchant à donner le plus de détails possible. Pour moi, la suite, elle est encore chaotique. Et elle le sera longtemps. Mais ce qui précède est gravé dans ma mémoire. Un suivi quasi inexistant. Et pendant que ma vie est chamboulée à jamais, que je combats à chaque instant la culpabilité de ne pas avoir été présent ce matin-là et de ne pas avoir pu l'empêcher de commettre l'irréparable, je réalise que personne ne pose les vraies questions. Qu'encore une fois, comme ce fut le cas lors de cette semaine fatidique de janvier et lors du suivi qui a précédé, nous sommes abandonnés. Comment se fait-il que le suivi de l'hôpital ait été si faible, voire inexistant? On me dit que mon frère n'a pas répondu au téléphone pour prévoir un nouveau rendez-vous. Comment se fait-il que l'ensemble d'un suivi psychiatrique ne tienne qu'au fait qu'un patient psychotique réponde ou ne réponde pas au téléphone? Il est démontré que les membres de la famille proche du malade psychotique sont les plus à risque d'être victimes. Même si l'insuffisance des ressources en santé mentale au Québec est souvent dénoncée, comment se fait-il que personne ne nous ait épaulés, aidés, entourés, aiguillés ou même avisés de ce risque? Comment se fait-il qu'aucune ressource intermédiaire n'existe dans un cas comme celui-ci, quand un malade est en crise psychotique, mais qu'il ne correspond pas aux critères stricts de la loi permettant de le soigner contre son gré? Comment est-ce possible que le diagnostic initial ait été posé avec autant de légèreté, sans aucun suivi serré, alors qu'aujourd'hui, le diagnostic de schizophrénie est confirmé par son psychiatre traitant? Comment se fait-il qu'un psychiatre spécialisé en santé mentale dise à un patient, et j'étais présent, qu'il pourra cesser de prendre ses antipsychotiques quand ça ira mieux, sans jamais le revoir ensuite ou sans guérir de son état? Comment peut-on se satisfaire de si peu? Dans une société où on répète ad nauseam qu'on prend la santé mentale au sérieux et qu'il s'agit d'une priorité? Je porte avec moi un sentiment de culpabilité qui ne disparaîtra peut-être jamais, qui ne m'empêche pas de voir l'examen de conscience collectif qui se doit d'être fait. Car si cette histoire souligne une triste réalité, c'est que personne n'est à l'abri. Pas nous. Pas vous. Je sais. De par toute la puissance et la grandeur qu'incarnait ma mère, que si soulever ces questions importantes permet de sauver une seule personne, une seule famille, elle en sera reconnaissante. Je t'aime, maman. C'était « Manu se sentait partir », un texte de Julien Gendron-Tardif paru le 1er avril 2025 dans La Presse.